Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio B.
Une émission aujourd'hui consacrée à l'amour, l'amour avec un grand A.
Pour vous présenter cette émission, Sofiane, Mehdi, Chabin, JB, Alexis, Sébastien et Abdel. Comme une panthère dans la fumée, le regard noir, le visage fier, le pas feutré, ce qu'on a découvert sur terre m'a fait pleurer. J'avais l'air, la manière d'aimer. L'amour de jour, l'amour de nuit, les victoires et les espoirs de toujours, ces blessures, ces sentiments, ces discernements, ces mouvements de joie, ces conquêtes ou ces fêtes, ces dettes, ces cicatrices et ces vices et ces trahisons, ces raisons que le cœur a, mais que la raison ne connaît pas, celles qui mènent à la paranoïa par addiction, cette substance essentielle pour tout être, sans elle nous ne serions pas ceux que nous sommes, tout simplement ce discours qui est décuplé d'amour par les sens.
La bouche.
Pour les gourmands, pensez à ces plats préparés avec amour. L'infini de ce que l'on peut faire avec une bouche, avec amour. Et cette langue qui définit le goût. Dire des choses sympas, courtiser, croquer la vie avec amour. Mais gare à vous.
Le nez.
Le tabac, néfaste et enthousiaste. On l'inspire comme une intuition qui coule dans notre respiration. L'amour est dans l'air. Plus, quand on est libre, moins cloîtré, les parfums envahissent. Un courrier, l'odeur des corps, un plat... Il laisse un souvenir, il nous fortifie.
L'oreille.
Un rythme de son qui transmet l'amour à l'unisson, une émotion, de douces paroles, des compliments, dont mes tympans vibrent de nouveaux sentiments.
Les yeux.
Éblouissement d'un sourire, de joie, pupille étincelante. La surprise face à une action, un cadeau, des paysages surnaturels. Et le plaisir de chaque jour.
Le corps.
Comme deux corps caressés et désirés. L'affection d'un être à la passion et la compassion, le plaisir de l'arrivée d'un nouveau-né, les premières pensées d'amour en têtant le sein, l'être humain a l'avantage d'absorber l'amour à tout âge, par le toucher, l'intimité, l'amitié et fidélité, pourvu de quantité, dans une errance, aisance, bienveillance ou même danse.
L'avenir sera sombre paraît-il, plein de dangers, mais c'est bon là, arrêtez. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique, mais je te regarde et le monde est à mes pieds. Le monde est à mes pieds. Laisse-moi te regarder. Là, le monde est à mes pieds, oui. Tu n'as pas besoin de parler, car je suis et resterai libre tant que j'ai le droit de te regarder. Je n'ai plus le moindre désir, je ne ressens plus le poids des années. Sans toi, je supplie Dieu d'arrêter de vivre et personne ici pourra me blâmer. Donnez-moi ne serait-ce qu'encore une heure à vivre ensemble. Je pourrais mourir demain pour te couvrir le cœur que tes rires m'enfantent. Je pourrais m'ouvrir le mien. Ne serait-ce qu'encore une heure à vivre ensemble. Je pourrais mourir demain pour te couvrir le cœur que tes rires m'enfantent. Je pourrais m'ouvrir le mien. Qu'importe ce que l'avenir nous réserve, c'est bon, arrêtez. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'en ce moment précis, j'ai le monde à mes pieds. Qu'importe ce que l'avenir nous réserve, c'est bon, arrêtez. Ah oui, j'ai le monde à mes pieds. Ah oui, j'ai le monde à mes pieds. Et en fin de compte, peu importe les guerres ou qu'advienne enfin la révolution, faut-il croire à la sagesse ou à la force des faibles? Y aura-t-il un jour enfin de vraies solutions? Mon ange gardien sera peut-être atteint d'un cancer. Qui sait si devra laisser la maladie me tuer? Si on est ensemble, on peut éteindre l'enfer. Si on est ensemble, le paradis peut brûler. Je ne veux pas savoir de quoi demain sera fait. Non, aujourd'hui je vois mes démons tous et le sang. Je vois la marque de l'infini dans ma main tracée. Oui, ton regard a le pouvoir de courber le temps. Être avec toi, c'est voler. C'est s'en aller là où on ne me cherchera plus. Être avec toi, c'est regarder le soleil. Je ne serai pas fâché si j'en perds la vue. Oui. L'avenir sera sombre, paraît-il, plein de dangers, mais c'est bon, là, arrêtez. Je ne sais pas ce qui arrivera de bon ou de maléfique, mais je te regarde, le monde est à mes pieds.
L'amour a évolué au fil des siècles. D'ailleurs, à Bourg-en-Bresse, un monument est érigé par amour. On a rencontré Cindy Manon au monastère royal de Brou.
Cindy Manon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable au pôle médiation au musée du monastère royal de Brou. Dans notre émission, on parle d'amour.
On s'est donc posé des questions sur le monastère. Pourquoi on compare le monastère royal de Brou au Taj Mahal ?
Oui, effectivement, on compare le monastère de Brou au Taj Mahal parce qu'à l'intérieur, il y a les tombeaux de Marguerite et Philibert. Et en plus, l'église a vraiment été construite par amour pour qu'on se souvienne justement d'eux pour l'éternité. Donc, ça a à peu près la même fonction que le Taj Mahal, mais dans une autre culture.
Est-ce que c'était vraiment une histoire d'amour entre Marguerite et Philibert ?
Alors oui, effectivement, tous les écrits de l'époque, hein, que ce soit les échanges entre Marguerite et Philibert ou les gens de leur entourage, décrivent vraiment un grand amour. Alors, à la base, c'était un mariage arrangé, hein, c'était politique, mais paraît-il, dès le jour de leur rencontre, il y a eu quasiment un coup de foudre. Ils se sont vraiment très très bien entendus et vraiment tous les avis convergent. Ils étaient très très amoureux l'un de l'autre.
Mais est-ce qu'on n'aurait pas construit une sorte de légende autour de cet amour, en fait ?
Alors, effectivement, le fait que Philibert soit mort très tôt et que Marguerite ait fait construire le monument, qu'elle porte toujours un médaillon avec le portrait de Philibert, il est possible qu'elle-même, elle se soit construite un peu une légende, qu'elle ait complètement idéalisé sa relation. Alors, on sait que ça se passait vraiment très, très bien entre eux, mais peut-être que s'ils avaient vécu beaucoup plus longtemps ensemble, l'histoire se serait déroulée différemment. Mais la mort tragique et prématurée de Philibert a fait que son image a vraiment été embellie et mise en avant.
À quoi ressemblaient les histoires d'amour à cette époque ?
Alors, on est vraiment à la fin du Moyen-Âge, donc l'amour est très idéalisé. On le voit vraiment comme quelque chose où on va échanger des poèmes, il va y avoir des belles conversations, on va pouvoir, pour sa dame, faire des actions aussi. Un peu cet amour courtois, en fait, qu'on va trouver au Moyen-Âge. C'est vraiment cet idéal d'amour. On n'est pas du tout dans l'amour passionné et tragique qu'on peut trouver au 19e siècle, hein, dans toutes les histoires romantiques. On est dans quelque chose de vraiment très respectueux, beaucoup finalement dans la culture, dans les poèmes. Là, on est beaucoup dans la danse aussi, la musique entre Marguerite et Philibert. On sait qu'ils participaient quand même à beaucoup de fêtes en leur honneur.
Pourquoi les visiteurs viennent visiter le monastère ? Est-ce que c'est cet amour qui motive la visite du bâtiment ?
Alors, il y a effectivement l'histoire d'amour entre Marguerite et Philibert. Ce n'est pas souvent que pour une église, on peut parler de cette histoire d'amour. Le bâtiment lui-même est très remarquable, hein, puisqu'on est sur du gothique flamboyant, on est sur un chef-d'œuvre d'architecture. Donc, les deux conjugués ont fait qu'il a eu une réputation en fait, très, très tôt. Même après la mort de Marguerite, il y avait déjà des nobles qui venaient aussi visiter. Donc, ça nous a permis en fait, déjà de construire un peu toute cette légende. Et nous, le fait qu'on a été élu monument préféré des Français, ça a permis de remettre en avant le monument et qu'il soit connu en France, mais aussi à l'international.
Les femmes veulent toujours changer les hommes, et les hommes veulent juste changer de femme. Les houris c'est un peu comme les fantômes, bien peu en ont vu mais beaucoup en parlent. J'ai vu très peu de meufs tenir une arme, un signe d'élégance dans ce monde de fous. Si quelques-unes savent simuler l'orgasme, tous les garçons savent simuler l'amour. Ils pensent qu'ouvrir leur cœur, c'est ouvrir leur braguette. Moi je suis pas un dealer, j'essaie pas te glisser une disquette. Mais ton père devait payer l'ISF pour ta richesse intérieure. T'as dû sûrement tomber tout droit du ciel, et tu t'es retrouvé sur terre par erreur. T'es ma houri, j't'aime à mourir. T'es ma houri, j't'aime à mourir en théorie. T'es ma houri, j't'aime à mourir. T'es ma houri, j't'aime à mourir en théorie.
Abdel Imedi, vous êtes allé chercher des infos scientifiques sur l'amour.
Abdel, d'un point de vue scientifique, c'est quoi l'amour ?
Passionnel, romantique ou physique, tout commence dans notre cerveau, qui déclenche, module et active un système de neurones. On appelle ça le circuit de la récompense.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on est amoureux ?
Le cerveau chorégraphie l'évolution vers le sentiment amoureux via des messagers chimiques, les neurotransmetteurs. Ils activent, relancent, bloquent certaines voies de communication nerveuses. La biologie n'est pas dans le romantisme du tout. Mais le cerveau invente et construit ce sentiment amoureux.
Mais c'est quoi cette chorégraphie de l'amour ?
Cela repose sur un équilibre fragile entre des systèmes excitateurs et des systèmes calmants. Au cœur de l'envie d'entrer en relation avec un partenaire, plusieurs hormones. La dopamine, c'est l'envie d'agir, de créer, d'aimer, de faire l'amour, de découvrir et d'aller plus loin. Toutes les dépendances résultent d'une stimulation particulièrement forte et répétée du débit de dopamine. La noradrénaline, proche de l'adrénaline, qui est un messager chimique du stress, d'où le cœur qui bat la chamade quand on est amoureux.
Ah ouais, je connais ça.
Comme les symptômes du coup de foudre, hein, stress, pupille dilatée, la noradrénaline est produite par les glandes surrénales. Elles reçoivent les ordres de l'hypothalamus, une région du cerveau de la taille d'une noisette, qu'on appelle communément la boîte à désir.
Mais comment agissent ces hormones dans la relation amoureuse ?
L'hypothalamus, encore lui, gère la mécanique de la relation sexuelle, jusqu'à produire un orage électrique dans le lobe cérébral. C'est ce qui explique l'extase érotique, donc l'orgasme. L'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour, des câlins, supprime le stress et active à son tour d'autres hormones qui permettent de percevoir le plaisir. Ces hormones sont des endorphines, comme l'amandamide et la sérotonine. D'ailleurs, l'amandamide est particulière. C'est une substance naturelle du cerveau dont le cannabis mime les effets.
On peut dire que l'amour est une drogue ? T'en penses quoi, JB ?
Je me suis demandé quand j'ai eu cet édito où j'allais trouver une inspiration sur une chose aussi complexe que l'amour. Une fois cette pensée passée, je me suis demandé s'il y avait une chose plus inspirante que l'amour. Et voilà comment, en quelques secondes, je suis passé d'un flou total à une évidence. Cette image résume bien ce que peut être l'amour. Quand le néant de la solitude est comblé par la sensation de voir le monde dans un regard. Et si au début tout est possible, le temps, la routine, la monotonie, mais aussi l'inconsidération ou juste le besoin d'autre chose ont parfois raison de cette quête idyllique. Shakespeare la voyait la plupart du temps inconditionnelle, donc tragique. L'amour, c'est peut-être ça, se sentir prêt à tout, qu'importe les risques si c'est la bonne personne. C'est à ce moment-là qu'on ressent tous ces effets, comme une drogue. Justement, l'amour est-il une drogue ? Partons du principe que oui, que les sensations de bien-être quand nous sommes près de l'être aimé peuvent se comparer à l'effet d'un stupéfiant. On a du mal à penser, les mains moites, une sorte d'ivresse qui rend l'instant magique. Comme une drogue, l'amour peut être interdit. Quand en pleine adolescence, tes parents ne veulent pas que tu vois il ou elle pour telle ou telle raison. Il s'avère bizarrement que les liens sont plus forts et les moments plus intenses quand ils sont faits un peu en cachette. Et comme la drogue, c'est souvent un bien pour un mal. On parle aussi parfois d'élixir d'amour et je pense que là, la métaphore est explicite pour comprendre que depuis toujours, dans l'inconscient général, l'amour est bel et bien une drogue. La notion du manque est aussi un parallèle criant pour faire le lien entre l'amour et la drogue. Un toxicomane dira « je suis en manque », quand un amoureux dira « tu me manques ». Voilà peut-être la différence avec la drogue. La drogue, c'est pour soi, l'amour, c'est pour l'autre. La drogue isole, quand l'amour, lui, partage. C'est là où la comparaison s'arrête. Donc non, l'amour n'est pas une drogue. L'amour, c'est vivre pour profiter de chaque instant. Quand la drogue, elle, c'est fuir le monde pour oublier l'instant. L'un construit, l'autre détruit. Bien sûr que l'amour peut être destructeur. Mais ce n'est pas son essence. L'amour destructeur est un oxymore en fait. Être amoureux, c'est choisir l'autre, pas par besoin, mais par envie.
L'amour, c'est un sentiment qui brasse des tas d'émotions. La joie, la tristesse, la colère, parfois. On s'est rendu compte que parfois, ça pouvait être difficile d'en parler, d'aborder certains sujets. La compagnie Madani a relevé le défi avec le spectacle Incandescence. À l'origine, le metteur en scène Ahmed Madani a lancé des ateliers d'écriture dans des quartiers populaires en région parisienne. L'objectif, récolter la parole des jeunes des quartiers autour de l'amour, de la sexualité et de leurs liens avec leurs parents. Aboubacar Camara était là dès le début. Aujourd'hui, il joue son propre rôle dans la pièce Incandescence.
Déjà, ça s'est fait en stage. On a fait plusieurs stages. Il y a eu plusieurs semaines de stage de recrutement. On était plusieurs personnes et tout. Donc, il y a eu des thèmes à aborder. On devait parler de soi. On était assis en cercle comme là. On devait parler de soi et on devait se livrer. En fonction de nos histoires et de nos comportements, de nos personnalités à nous, il a constitué un groupe à partir de là. Et ce qui nous a poussé à faire ce projet-là, il y a plus ou moins des personnes qui voulaient faire du théâtre et qui avaient l'envie d'aller sur scène. Je pense qu'on avait un peu tous envie d'aller sur scène parce que sinon on ne serait pas là. Et je pense que c'est cette envie-là qui nous a vraiment poussé parce qu'on s'est dit « Ah, il y a un projet, pourquoi pas, on va essayer ».
Mais pourquoi choisir les quartiers populaires comme décor de sa création ? Nathan Mawatou joue le rôle d'Ibrahima dans la pièce.
Dans les quartiers populaires, il y a des histoires que déjà, il y a le côté pudique, pudeur, on ne va pas parler de ça. Il y a aussi le fait que, oh, ils viennent du quartier, alors qu'ils ne peuvent pas s'exprimer ou ils sont à moitié écoutés. Alors que ce n'est pas parce qu'on vient de quartier qu'on n'a pas les mêmes histoires qu'une personne du 17e ou du 15e. Et en fait, je pense qu'il a voulu donner des voix aux jeunes de quartier sur scène, qu'ils peuvent s'exprimer et que nos histoires peuvent être les histoires des autres aussi.
La pudeur, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on comprend. On en a beaucoup parlé pour préparer cette émission. C'est assez étonnant de voir que les comédiens qui jouent cette pièce partagent ce sentiment avec nous. La pudeur, elle peut nous freiner parfois.
Personnellement, je suis quelqu'un de très pudique. J'aime pas révéler des choses sur ma vie. Mais quand c'est sur scène, c'est toujours différent parce que à partir du moment où c'est mis en scène, il y a un degré de fiction en fait. Et du coup, en fait, c'est dans ce degré de fiction-là que moi, je m'amuse. Parce que même si ça part de vraies histoires, il y a la manière dont c'est mis en scène, il y a des raccourcis, il y a des trucs qui ont été rajoutés pour que ce soit plus drôle, pour que ce soit plus rapide, etc. etc. Et du coup, en fait, dans ce degré de fiction-là, c'est là où en fait, on s'amuse et on prend tout le plaisir qu'il y a à prendre.
Et donc, le fait qu'on vienne d'un quartier populaire jouerait sur notre degré de pudeur ou non ? Notre capacité à exprimer nos sentiments ?
C'est une vraie problématique. Hein. C'est, comment est-ce que je vais dire « je t'aime » quand je ne peux pas totalement assumer aux yeux des gens qui nous voient, en fait. Et c'est pour ça qu'il a fait spectacle, et c'est pour ça que je pense que ce spectacle, il fonctionne aussi.
Des fois, il y a ça, dans certaines familles, effectivement, il y a de la pudeur, il y a des choses qui passent par... Enfin, dire « je t'aime », ça passe par autre chose que de le dire vraiment, ça passe par des gestes, ça passe par des attentions. Et du coup, en fait, je pense que c'est ça aussi, c'est aussi le langage qu'on nous donne au sein de nos propres familles, mais qui est influencé justement par la classe sociale, par là où tu vis, dans quelle culture, dans quel pays tu vis. Mais au final, nous, avec Incandescence, on a quand même réussi à exprimer notre amour et on voit que c'est différent pour tout le monde et que les histoires sont différentes, mais elles traduisent quelque chose de l'ordre de l'universel, quoi.
L'amour comme langage universel pourrait même éveiller les consciences. Une fois qu'on dépasse la pudeur, la parole se libère. Et ça se produit sur scène. Romain Bouillaguet joue le rôle de Virgile.
Bah, je pense que toutes les personnes qui vont faire du théâtre, ils ont une volonté d'exprimer quelque chose qu'ils n'arrivent pas à dire dans la vie. Tu vois, même moi, je parle personnellement, c'est juste quelque chose d'arriver personnellement, à arriver sur scène et dire des choses qui sont fortes et que je n'arriverai pas à dire... à mes parents ou à mon père ou à des gens que j'aime. Et je pense que dès que tu fais ce métier-là, t'as cette chose-là qui est en toi. Et après, pour éveiller les consciences, je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on espère, c'est qu'il y a des gens qui voient des choses qu'ils n'aient pas l'habitude de voir. Et que c'est important, en fait, je pense, de parler de ça, surtout dans les temps actuels, mais de parler d'amour... Ça nous fait du bien et je pense qu'on n'en parle pas assez entre nous et qu'on essaie de toujours mettre les gens les uns contre les autres. Et peut-être qu'il y a des jeunes qui vont venir et qui vont rigoler, mais il y a peut-être une phrase qui va les marquer et il y a peut-être des personnes un peu plus âgées qui vont, il y a des choses qu'ils vont peut-être pas comprendre, mais d'autres qui vont se dire « Ah ouais, en fait, on a connu la même situation, on envoie des liens en fait avec des histoires » et c'est ça qui fait, je pense, du bien aux gens de se dire... En fait, on est pareil et ouais, on n'est pas seul. Et c'est souvent, il y a ce truc-là, je pense que quand on fait du théâtre aussi, ouais, même de se rendre compte qu'on n'est pas seul, ça fait du bien parce que nous, quand on travaille, je pense qu'on s'est rendu compte, en fait, on a écouté même les autres histoires et on s'est fait, ah ouais, en fait, ça fait du bien, quoi. Juste d'entendre ça.
Bon, mais alors, une fois qu'on monte sur scène pour donner ce spectacle, ça doit être beaucoup plus facile de parler d'amour. Ça a dû changer pas mal de choses pour l'équipe.
Ma relation avec l'amour n'a pas changé. Mais ma relation par rapport à la sexualité ou comment on l'exprime, c'est vrai qu'elle a été un peu chamboulée. Quand j'ai eu le rôle, on m'a envoyé la captation et j'ai vu le spectacle dans son intégralité. Et quand je l'ai vu, je me suis dit « Ouah, je peux pas faire ça, frère. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. » C'est... Même Ibrahima, lui, il en faisait encore plus au niveau du daron parce qu'il y a un moment, j'imite mon daron et je me disais « Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. » Et après, je me suis dit quand même, ça va, je vais le faire. Mais du coup, ça a mis du temps en fait pour moi d'accepter déjà de le faire. Et puis au final, je me suis dit, au final, on le fait tous, tu vois. Enfin, voilà, normalement, on le fait tous, on va tous le faire au bout d'un moment. Du coup, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal. Et même en parler, il faudrait pas que ce soit trop tabou non plus, parce que sinon, on se met dans des pièges on piège les gens. Surtout les jeunes gens qui vont expérimenter cette chose qui est l'amour, le sexe. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. Voilà.
On vous remercie tous un peu pour ça, parce que c'est important d'aller dans un endroit et de repartir enrichi. Et c'est ce que vous faites, en plus, avec humour. Et des fois, on est passé un peu toutes les émotions. Et franchement, c'est grave cool. Vous avez géré, donc merci.
bleue sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'aborde si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu me
Je ne l'ai jamais fait, par pudeur, par respect ou par éducation, parler d'elle, parler d'amour. On ne sait pas dire je t'aime, mais on sait. Nos sourires et nos actes, nos mimiques et nos codes, c'est ici. C'est cette absence qui nous fera regretter de ne pas l'avoir dit assez. Elle est la mère de l'amour. Il n'y a qu'elle qui peut tout accepter. La définition de l'amour inconditionnel. En prison, les mères bravent les interdits et les regards. Elles sont palpées, déshabillées, dévisagées et surtout incomprises. Pour un moment avec l'enfant incarcéré. Comme moi, elle est enfermée, même dans cette cabine où elle ne peut que me regarder et m'embrasser. Et les plats qu'elle m'apporte, qu'elle prépare longtemps la veille, je ne sais pas si c'est pour se réconforter ou pour me réconforter. Avec tous les kilos que j'ai pris, elle me fait toujours remarquer que j'ai maigri. Et j'imagine les nuits blanches et les heures de cuisine dans la pénombre, pour nos rendez-vous culinaires au parloir. Pour nos mères, c'est le défilé. On se fait le plus beau possible au moment de les retrouver. Les petites attentions sont infinies. Le linge qu'on reçoit, toujours parfumé, plié, repassé, toujours plus que nécessaire. Ma mère, je l'ai accompagnée au parloir voir mon frère. Je l'ai vu blêmir pour la puce qu'on s'est donnée. C'est interdit, mais on a besoin d'échanger. 16 ans plus tard, les rôles sont inversés. Il la soutient et je fais tout pour l'apaiser. Cette puce qui nous relie, c'était pour l'appeler. Celle-ci, je vais la refuser. Je veux la préserver. C'est ma façon à moi de l'aimer.
Regarde-moi bien droit dans les yeux.
C'est la fin de notre émission.
Merci de nous avoir écoutés.
J'aurais besoin de mille et une fables pour te déclarer ma flamme, car dur de trouver dans les mots ce qui relève de l'ineffable. Tu es ma fontaine de jouvence, dans tes bras je perds mes rides. Ton cœur est comme les pommes au jardin des Hespérides. J'aime plonger dans ton regard où les étoiles puisent leur lumière chaque matin. Un nouveau départ quand on s'enivre des fleurs d'hier, notre amour coule de source, je ne vis qu'à travers nos câlins, j'étais dans la peau. L'effet de Manon sur Hugolin. Ma douce, je t'aime.